France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La droite et la gauche. Les droites, les gauches, oui, puisqu'elles existent également au pluriel. Et c'est donc avec tout ça qu'on fait la France. Ça étant, entre autres, les sœurs ennemies. Pourquoi cette appellation gauche-droite, droite-gauche? Depuis quand observe-t-on, nomme-t-on en France ces deux entités? D'où vient cette métaphore spatiale de la politique? Et donc, quand il y a une droite et une gauche, il y a, au milieu, un centre. L'histoire de la gauche et de la droite, c'est aussi, et avant tout, une histoire des histoires de femmes et d'hommes, de gauche et de droite, de familles de gauche et de familles de droite, ainsi que le faisait entendre cette série de deux émissions, Lieux de mémoire, proposée en 1996 par Marc Riglet et Marie-Christine Clauset.
Lieux de mémoire, la gauche et la droite, sœurs ennemies et jeux brouillés. Une émission de Marc Riglet. Réalisation Marie-Christine Clauset.
Homme de gauche, l'apéro.
Homme de droite, le sport.
Le militant.
Le chef.
Le contre-pouvoir.
Le pouvoir.
Le nationalisme.
Le patriotisme.
Le patriotisme.
Le nationalisme.
Satan.
Dieu.
La cigale.
La fourmi.
Assurance sociale. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, assurance sociale?
Il nous faut procéder, messieurs, et cela de toute urgence, à une nouvelle compression provisoire du personnel et à un réajustement des salaires.
La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Naturellement, les Français, comme de tout temps, ils l'ont eu, ressentent en eux des courants. Il y a l'éternel courant du mouvement, qui va aux réformes, qui va aux changements, et qui est naturellement nécessaire. Et puis, il y a aussi un courant de l'ordre, de la règle, de la tradition, qui lui aussi est nécessaire. C'est avec tout ça qu'on fait la France.
Elles sont sœurs ennemies, elles sont nées d'une circonstance, mais elles ont accédé à l'universel. À travers elles, à travers la gauche et la droite, donc, se jouent depuis deux siècles nos débats démocratiques et nos éruptions révolutionnaires, nos cultures et nos engagements, nos sensibilités et nos violences, nos vies, en somme. Alors avec tout cela, évidemment, rien ne saurait être simple. La gauche et la droite formeront donc tour à tour un couple aimable et policé, ou bien elles monteront aux extrêmes de leurs différences. Apparemment solides et durables, mais aussi perpétuellement réinventées, la gauche et la droite connaissent aussi d'étranges transformations qui brouillent les lignes, qui inversent les valeurs et qui opèrent entre elles d'insolites chassés-croisés. Mais au fond, et par-delà les métamorphoses et les jeux brouillés de ces sœurs ennemies, ce qui reste le plus étonnant, c'est la bonne fortune de ces deux notions. Pourquoi la gauche et la droite, notions à la fois abstraites et prosaïques, sans contenu et pourtant débordantes de signification, pourquoi ces notions vont-elles un beau jour d'été de 1789 s'installer comme lieu de mémoire de nos sensibilités politiques? Il y a là un véritable mystère originel que Marcel Gaucher se devait en tout premier lieu de dissiper.
L'insolite, c'est finalement en quoi la droite et la gauche, opposition politique vivante, notion purement symbolique, peut être un lieu de mémoire. Or, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que cette opposition est un véritable lieu de mémoire, au sens d'un lieu rhétorique, d'un couple de notions qui concentre dans deux mots une histoire politique tout entière et au fond ce qu'il y a de plus particulier dans la tradition politique française depuis la Révolution.
Alors, on va donc, comme vous le faites d'ailleurs, d'emblée, saisir la circonstance dans laquelle le couple surgit. Et il faut bien dire circonstance, hein. Il y a un caractère presque aléatoire du phénomène de la naissance. Vous nous en rappelez la scène ?
Oui, c'est, à la vérité, il ne s'agit même pas d'une scène. Il s'agit d'un processus presque insaisissable qui se déroule dans l'été 89. Les historiens ont l'habitude de recopier, comme c'est souvent le cas en histoire, un récit légendaire fabriqué a posteriori par Buchez et Roux dans leur grande histoire, débat parlementaire de la Révolution, selon lequel ce serait donc le 28 août, lors du débat sur le veto, qu'aurait cristallisé cette opposition entre une droite et une gauche.
Oui, je me faisais l'écho d'ailleurs de cette scène.
C'est une légende. Quand le 28 août 1789, les députés effectivement se rangent en droite et gauche, ça n'est pas du tout une nouveauté. On sait, par l'observation de la constituante à ce moment-là, qui se déroule dans un grand désordre. N'oublions pas qu'à cette date, il y a encore des membres du public qui siègent parmi les députés. Donc c'est dire qu'on n'est pas dans une assemblée encore très régulièrement organisée. Mais néanmoins déjà, il existe une gauche. Parce que le véritable acte de naissance, il est là. Le véritable acte de naissance, c'est dans le fait que se déclare une gauche. L'extrémité du côté gauche, à la vérité, qui s'organise d'emblée, dès avant peut-être même la réunion des ordres. Et au fond, cette gauche renvoie à droite des gens qui, spontanément, dans les tout premiers temps de l'Assemblée, siégeaient n'importe où. Mais le fait qu'il y ait un petit groupe cohérent, de proche en proche, provoque un classement général. Et petit à petit, on voit apparaître la chose. L'opposition est vraiment... Parce que ce qui compte, ça n'est pas les descriptions physiques. C'est le moment où les gens se rendent compte que l'organisation de l'Assemblée, c'est une droite et une gauche. Et ça, on le sait à peu près, c'est octobre 1789, où on commence à décrire le spectacle de l'Assemblée comme séparant une droite et un côté droit et un côté gauche. Parce que pendant toute la Révolution, on ne parle pas de la droite et de la gauche, on parle du côté droit et du côté gauche.
Alors donc, effectivement, ce qui naît au moment révolutionnaire, c'est le côté droit et c'est le côté gauche. De sorte qu'il faut aller un peu plus avant dans l'histoire pour repérer le moment où ce côté droit devient droit, ou le parti droit, ou la droite, et le côté gauche, le parti gauche, ou la partie, ou la gauche. Et ce moment-là, c'est la Restauration.
Oui, en fait, oui. La Restauration, c'est-à-dire le vrai moment d'acculturation du parlementarisme dans la politique française. Et là, là aussi, une décision contingente, pour des motifs qui nous échappent. Au moment de la réunion de la Chambre introuvable, les ultras, ceux qu'on va appeler très vite les ultras, vont siéger à droite. Imaginons qu'ils aient été siégés à gauche. Après tout, ils avaient toute liberté pour le faire. Et à ce moment-là, évidemment, la tradition eût été interrompue. D'une manière tout à fait inconsciente, ces gens qui haïssaient la Révolution se sont en fait retrouvés. Et on va très vite observer, c'est consacré en 1818-1819 à peu près, on voit apparaître des plans de l'Assemblée qui sont diffusés dans le public et où on donne la position de tous les députés dans l'hémicycle, puisque c'est très important. Les Français, pour des motifs en partie contingents, en partie de choix, adoptent pour les débats parlementaires une forme bien précise. L'hémicycle, non pas deux galeries de bancs qui se font face comme le gouvernement et l'opposition dans le Parlement anglais, mais un hémicycle qui permet un arc de position où un partenaire très important s'installe aussi, qui est le centre. Puisque quand il y a une droite et une gauche, il y a un centre. Alors, c'est parce qu'il y a un centre qu'il peut y avoir une droite et une gauche.
Vous avez une jolie formule, vous dites que ce couple ne survit que dès lors qu'il est un ménage à trois.
Oui, il faut bien voir ça. Et là, on entre dans le fond de la vie politique française. C'est que on se trouve, dans ce moment de la Restauration, dans la situation où on a des extrêmes politiques qui sont en gros le parti de l'Ancien Régime, le parti de la Révolution. Ni l'un ni l'autre ne sont des partis de gouvernement. Le parti de gouvernement, ça va être le parti du centre. Et la particularité de la tradition politique française, c'est non pas le bipartisme, comme les Anglais le connaissent, comme les Américains commencent à le voir à peu près au même moment se mettre en place, républicains et démocrates, mais un système très particulier où le gouvernement est au centre, et alors qu'il est contesté sur sa droite et sur sa gauche.
Je suis d'une origine sociale, je dirais, extrêmement modeste.
François Colbert.
Mon père était cheminot sur le réseau breton des chemins de fer économiques, société privée. Il était cantonnier, c'est-à-dire qu'il entretenait la voie de chemin de fer, un travail purement manuel, avec un salaire... je ne dirais pas ridicule, mais presque. L'avantage que nous avions, c'était de bénéficier d'un logement gratuit, confortable d'ailleurs, une maisonnette d'employés de chemin de fer qu'on voit encore en bord des lignes. Pour mes parents, c'était inespéré.
Quand votre père devient cantonnier, employé de cette compagnie privée du chemin de fer, il est ouvrier, il se sent ouvrier ?
Absolument. Oui.
Ces références politiques, elles sont de quelle espèce ?
Ces références politiques sont caractéristiques. C'est un prolétaire. Nous ne possédions rien du tout, d'aucune façon. Et il a subi, autant que je me rappelle, l'influence du clergé pendant sa jeunesse. De sorte que, je ne dirais pas qu'il est devenu anticlérical, mais je ne l'ai vu pratiquement jamais entrer dans une église.
Le milieu social a été pour moi essentiel dans ma formation.
Jean Cassou.
J'ai eu en effet une enfance et une adolescence, comme on dit aujourd'hui, protégée. Mon père m'a beaucoup aidé, encore que il se montrait quelquefois plus sévère avec moi qu'avec ma sœur et mon frère puiné, mais aujourd'hui, je reconnais qu'il avait largement raison et je ne peux que l'en remercier.
Et c'est pas par hasard, vous étiez l'aîné donc.
J'étais l'aîné et c'est sur l'aîné, vous avez raison, j'étais l'aîné. Donc et là... c'est toujours sur l'aîné qu'on fait ses premières armes de parents.
C'est peut-être aussi une conception du monde assez caractéristique, disons, de la bourgeoisie conservatrice, de tout miser sur l'aîné, le cadet. Hein, un peu sur le modèle de l'Ancien Régime.
On aurait dit ce serait un homme d'église.
Voilà.
Et il faut que le premier soit officier dans l'armée.
Et la jeune fille, on la marie. Donc vous investissiez en quelque sorte tous les espoirs de la descendance.
Exactement. Alors c'est pour ça que je dois dire un grand merci aujourd'hui à l'éducation que j'ai reçue.
Votre père est fonctionnaire.
Alors mon père était fonctionnaire des finances.
Et il termine en haut de l'échelle du ministère des Finances, enfin de l'administration des Finances, puisqu'il est trésorier, payeur général.
C'est cela. Il avait passé le concours de rédacteur au ministère des Finances en 1921. Il était devenu rédacteur principal, sous-chef de bureau, chef de bureau. Et à ce moment-là, pour des questions financières plus avantageuses, il a opté la province. Comme il était à la comptabilité publique au ministère des Finances, sa voix était toute faite en province, comme receveur des finances, puis comme trésorier payeur général.
Moi, j'ai pris conscience de la division de la société en classes sociales de la manière suivante. Nous habitions une maisonnette d'employés de chemin de fer à proximité d'une minoterie dont le propriétaire habitait dans un manoir.
Et nous y étions invités régulièrement à chaque fin d'année pour un repas qui réunissait les employés de la minoterie, leurs familles, et puis les voisins, nous nous faisions partie. Et là, nous nous réunissions dans une salle à manger dont j'étais ébloui par le luxe. Et je ne devais pas être le seul. Quand je comparais cette situation-là à la nôtre, je ne pouvais que constater ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a deux classes totalement différentes, les pauvres, les riches, les bourgeois, les prolétaires.
Et ça
m'a marqué.
Et ça, c'est la perception donc, de la division en classes de la société. Est-ce que dans le même temps, cela correspond à une émotion politique proprement dite?
Oui, enfin, ouais. Ça a dégénéré en prise de parti politique. Mmh. Dégénéré, entre guillemets.
Oui.
Mon père, lui, s'il n'était pas anticlérical au vrai sens du mot, était franchement hostile à la religion. Il était hostile, et comme je le suis devenu d'ailleurs, pour la raison suivante, c'est qu'il admettait que l'on soit croyant, mais il n'a jamais admis, comment dirais-je, l'intervention temporelle du clergé. Il m'est arrivé de voir arriver le curé du bourg voisin pour sa quête du denier du culte. Et lorsque mon père le voyait apparaître, s'il était à la maison, il quittait ostensiblement la maison.
Est-ce que la dimension religieuse dans votre milieu familial est importante? Est-ce que les valeurs catholiques sont transmises et,
oui, alors,
et observées?
Dans ce domaine-là, j'avais deux parents qui étaient des catholiques convaincus, pratiquant la charité, pratiquant la générosité vis-à-vis d'autrui dans des œuvres diverses ou... Il dépensait certainement de l'argent qui aurait pu leur servir à des jouissances personnelles.
Oh, you want to write a fugue. You've got the urge to write a fugue. You've got the nerve to write a fugue. So go ahead.
So you want to write a fugue. You've got the urge to write a fugue. You've got the nerve to write a fugue. So go ahead. So go ahead and write a fugue. So go ahead and write a fugue that we can sing.
So you want to write a fugue. You've got the urge to write a fugue. You've got the nerve to write a fugue.
Il faut évoquer la question de l'Église catholique parce que de tous les critères qui peuvent expliquer le comportement électoral, le plus efficace, la corrélation la plus forte, se trouve avec la pratique religieuse.
Guy Rossilandi.
C'est-à-dire que, bon, on a tout essayé. Alors, on a essayé la profession. Bon, la profession, c'est vrai que les ouvriers ont longtemps voté à gauche, mais vous savez que c'est maintenant Jean-Marie Le Pen qui recueille le plus de votes ouvriers. Est-ce que Jean-Marie Le Pen est de gauche ou de droite? La question est posée. Normalement, il est étiqueté comme étant à droite. Donc, la profession, la CSP, n'est pas un critère entièrement satisfaisant. Bon, on peut croiser cette profession avec le niveau de revenu. C'est évident que quand vous êtes profession libérale et que vous avez un haut niveau de vie, vous n'êtes pas particulièrement favorable à des changements brutaux dans l'organisation de la société de votre pays. Ça se comprend. Mais ça ne marche pas bien. Le sexe. Pendant longtemps, ça a marché. Pendant longtemps, les républicains ont refusé le droit de vote aux femmes en pensant qu'elles allaient voter comme leur curé leur conseillerait dans le confessionnal. Et puis, c'est vrai que dès 1965, le général de Gaulle aurait été battu par François Mitterrand si les femmes n'avaient pas voté. Bon.
C'est d'ailleurs, c'est maintenant une distinction qu'on ne peut plus établir.
Qui n'existe plus. Les spécialistes, Janine Lavaux, qui travaille sur le vote féminin, ont constaté qu'il y avait 51-52% de femmes.
Un peu plus de femmes.
Un peu plus de femmes, même, qui votaient aujourd'hui à gauche. Voilà. Bon. Donc, abandonnons le sexe. L'âge est un critère qui joue un peu. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles son propre camp a reproché à Valéry Giscard d'Estaing d'avoir abaissé l'âge de la majorité en lui disant que c'était pour cela qu'il avait perdu en 81. Ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a un peu plus d'électeurs de gauche parmi les jeunes, mais aussi plus d'abstentionnistes. Donc la mobilisation des jeunes en faveur de la gauche n'est pas très forte. J'ai tendance à penser qu'elle ne s'est pas renforcée au cours des dernières années. En revanche, pour les mêmes raisons que les gens riches ne souhaitent pas de changement brutal, les personnes très âgées n'en souhaitent pas non plus. Et l'on peut penser qu'à partir de 60, 65 ans, 70 ans, le vote pour la gauche a tendance à se raréfier. Ça veut dire que la droite a un bel avenir devant elle, avec l'espérance de la longévité, une longévité plus grande. La variable religieuse, c'est celle qui marche le mieux. C'est celle qui marche le mieux. Alors, les politologues ont établi des catégories de messalisants, comme ils disent dans leur jargon.
C'est-à-dire, il faut expliquer.
Les messalisants sont les gens qui vont à la messe. Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que si vous êtes messalisant régulier, vous avez beaucoup plus de chances de voter à droite que si vous êtes sans religion. Dans lequel cas, vous avez évidemment beaucoup plus de chances de voter à gauche. C'est de tous les clivages, de toutes les corrélations envisageables, c'est celle qui fonctionne le mieux.
Je crois qu'un instinct sûr nous fait connaître si telle personne est à droite ou à gauche, et de deux personnes, laquelle est à la gauche de l'autre. Mais s'il s'agit de dire pourquoi, la difficulté commence. La grande difficulté vient de ce que, en France, on est parfois à gauche politiquement et à droite socialement. Je me rends compte de l'insuffisance de cette analyse, mais permettez-moi de répéter qu'en fait, on ne s'y trompe jamais. André Siegfried.
Donc, la gauche et la droite existent, elles existent même au pluriel, mais ce n'est pas sans mal qu'on les identifie. Au fond, il semble qu'on les sente, qu'on les ressente plus facilement qu'on ne les analyse. Faut-il alors partir à la recherche de cette essence particulière que suggère André Siegfried, de cette qualité singulière qui permettrait sans coup férir de déterminer ce qui est de gauche et ce qui est de droite? Alain Gérard Slama a emprunté ce chemin.
La droite et la gauche ne se définissent pas par des thèmes, mais se définissent surtout par des attitudes devant le monde, par ce que les Allemands appelaient une Weltanschauung, une vision du monde. À droite, précisément, ce qui m'apparaît dominant au terme d'une longue enquête, c'est pas impressionniste, c'est le refus du conflit. C'est l'idée que, au fond, la création est équilibrée, que le bien et le mal y remplissent chacun des fonctions complémentaires, qu'il y a toujours un bien qui ressort d'un mal, que, par ailleurs, l'histoire fonctionne sur le mode de l'alternance. Un jour c'est le yin, le lendemain c'est le yang. Et surtout, éviter donc le mouvement qui déplace les lignes. Il y a parfois du réformisme à droite, mais avec toujours l'éternel souci de la conservation. Cette attitude devant la vie, elle est profonde. Elle repose, pour moi, d'un mot, refus du conflit à droite, ou plutôt désir de contournement du conflit quand on ne peut pas faire autrement, et à gauche, assomption du conflit. J'ajoute une réserve pour anticiper sur une objection, et la violence alors. Il peut y avoir une violence qui résulte du refus du conflit, nous le savons bien. Et c'est précisément pour que rien ne change qu'on va faire la terreur blanche, qu'on va faire l'ordre moral, etc. Autrement dit, ce qu'il faut voir, c'est la finalité que l'on poursuit. Le conflit, ce n'est pas la même chose que la violence.
Et alors, est-ce que je peux me permettre d'oser vous mettre en contradiction avec vous-même? Bon, vous ne redoutez pas de vous affirmer comme un homme de droite.
Oui.
Bon. Or, si vous aviez à choisir entre les deux conceptions de la nation, disons la nation citoyenne, hein, qui nous vient de la Révolution et de la Déclaration des droits de l'homme, bon, qui serait la nation de gauche, oui. Et la nation des terroirs, la nation de l'histoire, la nation du sang et du sol, celle-là serait de droite. Mmh. Or, je crois savoir que votre inclination vous pousse plutôt vers la version de gauche de la nation.
De là tout à fait le débat, hein, y a-t-il ou non plusieurs droites ? Au fond, c'est ça. Car le nationalisme, c'est évidemment l'extrême droite, celle qui nous conduit à Le Pen ou à Philippe de Villiers, aujourd'hui. Et puis, il y a, en effet, une autre droite que l'on qualifierait d'orléaniste, qui serait plus préoccupée de faire des emprunts au discours de la gauche, et qui serait plus préoccupée de modération, et qui se réclamerait, elle, davantage des Lumières. On voit bien que ce n'est pas vrai, parce que tout de suite, par exemple, si on prend le nationalisme d'extrême droite, regardez Maurice Barrès. Barrès reconnaît l'héritage des Lumières et de la Révolution française, c'est très compliqué. Et en même temps, il prône un nationalisme presque extravagant qui n'est pas éloigné par bien de ses dimensions du nationalisme de Maurras. Donc je crois qu'il y a une seule droite. Simplement, cette espèce de champ que recouvre la droite, évidemment, comporte des inflexions variables selon les moments et puis, bien entendu, inclut à l'intérieur de son champ des tempéraments plus modérés ou des tempéraments plus autoritaires ou problématiques ou des inclinations aux extrêmes. Disons que j'appartiens à une droite modérée, tout en sachant bien que même si mes amis sont à gauche et si avec le temps, les valeurs de gauche apparaissent aujourd'hui comme conservatrices, justement. Je dis bien que ce n'est pas les thèmes qui nous importent, c'est les attitudes. Mon attitude modérée va me faire intégrer en effet un certain nombre des valeurs de la gauche qui devraient d'ailleurs faire plus problème à la gauche qu'à moi-même.
Politique de tous les partis adhérents au Rassemblement populaire sont ici. Et vous les avez entendus, vous les avez acclamés l'un après l'autre. Les représentants des grandes organisations groupées dans le Rassemblement sont ici et vos applaudissements les ont aussi salués tour à tour.
J'ai donc adhéré en 1932 à la CGTU et j'ai assisté, vécu
la réunification.
À la réunification de 1935, oui. Que j'ai applaudi. Ça m'a provoqué en moi une certaine joie. Oui. Parce que je m'étais rendu compte que la CGTU était minée par ses tendances politiques. Okay. Et qu'elle allait devenir un groupuscule syndical.
La période du Front populaire.
La vous période la vivez... du Front populaire, alors, elle est pour moi mémorable. Parce qu'elle correspond à mon engagement, cette fois-là, politique, qui remonte à 1934. Je me suis inscrit à la fameuse SFIO. Je dis fameuse SFIO parce que elle ne me paraissait pas tellement vigoureuse, en fait, de revendication.
Donc vous étiez à sa gauche ?
À sa gauche.
Vous étiez avec, je sais pas, des gens comme Marceau Pivert ?
Très exactement.
Ah, donc vous êtes un pivertiste.
Je vois que vous connaissez l'histoire du parti politique SFIO. Ouais.
Donc vous êtes à la gauche, hein, de la, oui, SFIO. Mais vous auriez pu choisir d'être communiste, puisque vous veniez de la CGTU. Qu'est-ce qui se passe, là ?
Qu'est-ce qui se passe ? J'ai, je vous dirais, sincèrement, j'ai été sollicité par un collègue communiste pour adhérer au PC. Et je lui ai répondu négativement en lui disant « Non, je tiens à conserver mon indépendance d'esprit ».
J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et de ma fortune, en mes toutes offertes, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le
de Front populaire est constitué. Appelé hier à 6 heures du soir par Monsieur le Président de la République, je lui ai remis, séance tenante, la liste de mes collaborateurs. Le gouvernement se présentera dès demain devant les chambres. Dès aujourd'hui, il veut prendre contact avec le pays. Son programme est le programme du Front populaire. Parmi les projets dont il annoncera le dépôt immédiat et qu'il demandera aux deux chambres de voter avant leur séparation, la semaine de 40 heures, les contrats collectifs, les congés payés, c'est-à-dire les principales réformes réclamées par le monde ouvrier, la victoire des 26 avril et 3 mai reçoit aujourd'hui sa pleine consécration. Un grand avenir s'ouvre devant la démocratie française. Je l'adjure, comme chef du gouvernement, de s'y engager avec cette force tranquille qui est la garantie de victoire nouvelle.
Nous sommes mariés, ma femme et moi, en 1936. Et en voyage de noces, un cousin nous a offert d'occuper son logement à Paris. Au mois d'août, je crois bien, c'était l'époque des grandes grèves de 1936, appelées grève sur le tas. Et j'ai, avec ma femme, défilé dans des manifestations où les manifestants levaient le poing à longueur de route.
Vous ne savez que trop, messieurs, que la crise actuelle, amoindrissant considérablement la surface du marché, impose des restrictions parallèles dans la production. Elle nécessite même la destruction de certains stocks qui encombrent le marché. C'est ainsi que la Société des Forges et Aciéries de Longuencourt, que nous contrôlons, a dû procéder à une destruction de matériel. Ce n'est pas une innovation. Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que dans divers pays, on s'est vu contraint de se débarrasser de denrées alimentaires et de produits de première nécessité. Ces opérations ont déjà donné d'excellents résultats. et ont contribué à l'assainissement du marché mondial. Aux États-Unis, on jette le lait. Ailleurs, on brûle le blé. On jette le café à la mer. Nous n'avons rien négligé pour réduire les sacrifices que cette période d'attente impose à nos actionnaires. Les économies nous ont été imposées, particulièrement pénibles, certes, messieurs, puisqu'elles comportent de nombreux licenciements, la mise à la retraite de collaborateurs dévoués. Il faut que le personnel puisse comprendre et s'adapter. Il faut qu'il accepte le caractère inéluctable de certains sacrifices.
Et du pain, du travail, 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 et du pain.
La parole est à notre ami Léon Blum, président du Conseil. Mes chers amis, je n'étais pas inscrit au programme de cette fête. C'est moi qui, hier soir, à la fin d'une assez dure journée, et après m'être entretenu avec nos camarades délégués des usines métallurgiques de la Seine et demandé à la Fédération de la Seine de m'accorder aujourd'hui son hospitalité. Je m'étais entretenu avec nos camarades des usines, j'éprouvais le besoin impérieux, je vous l'assure, de m'entretenir maintenant avec mes camarades et avec mes amis de la Fédération. Est-ce que vous croyez qu'il y ait un seul de vos sentiments que je ne comprenne pas et que je n'éprouve pas ? Vous avez entendu l'autre soir. Vous avez entendu l'autre soir. Au Vélodrome d'hiver, les délégués du Front Populaire Espagnol, je les avais vus le matin même. Croyez-vous que je les ai entendus avec moins d'émotion que vous? Croyez-vous, quand je lisais comme vous, dans les dépêches, le récit de la prise d'Anda d'Irun et de l'agonie des derniers miliciens, est-ce que vous croyez par hasard que mon cœur était moins déchiré que le vôtre? Et d'autre part, est-ce que vous croyez que j'ai été subitement destitué de toute intelligence, de toute faculté de réflexion et de prévision, de tout don de peser dans leurs rapports et dans leurs conséquences les événements auxquels j'assiste? Vous ne croyez rien de tout cela, n'est-ce pas? Alors, si j'ai agi comme j'ai agi, si j'agis encore comme j'estime qu'il est nécessaire d'agir, alors il faut bien qu'il y ait tout de même à cela. Alors, il faut bien qu'il y ait tout de même à cette conduite des motifs, peut-être valables, je le crois, en tout cas intelligibles. Vous pouvez, je ne vous demande pas, je sais, une confiance aveugle, une confiance personnelle dans tel ou tel individu, mais cette confiance-là, cette conscience de ma constance avec moi-même, avec ma conscience de militant, et cette faculté, malgré tout, de jeter sur les événements un regard empreint de quelque clairvoyance raisonnable. Cette double confiance, je crois que vous pouvez tout de même l'avoir en moi.
La guerre d'Espagne, elle date de 1936. 1936, c'est l'invasion de l'Espagne par les armées nationalistes dirigées par Franco, qui se trouvaient dans le Maroc espagnol. J'ai constaté une chose, et le film Land and Freedom le confirme, c'est que les armées républicaines étaient en état d'infériorité matérielle évidente par rapport aux troupes nationalistes, lesquels étaient composés de l'armée régulière, soutenus par l'Église, soutenus par la bourgeoisie, tandis que l'armée républicaine, composée de socialistes, de communistes, d'anarchistes, de milices et de brigades internationales, était pour moi en état d'infériorité. Je ne me faisais pas, dès le début, d'illusions sur la défaite qui s'annonçait pour les troupes républicaines.
Mais à ce moment-là, vous faites partie de la gauche de la SFIO. Hein, vous êtes dans
SFIO.
Et lorsque Léon Blum, le cœur fendu, annonce à Luna Park
la non-intervention,
comment réagissez-vous?
Oui, je me suis posé la question, pourquoi Léon Blum, un homme intelligent comme lui, prône la non-intervention? Je me suis posé la question, je n'ai pas trouvé la réponse.
Homme de gauche préfère la quantité.
Homme de droite préfère la qualité.
Créateur, dynamique.
Rétrograde, statique.
Déraisonne.
A conservé son bon sens au milieu des fous.
Tourné vers l'avenir.
Nostalgique de l'ordre.
Donne un sens à l'histoire.
A peur pour ce qui existe.
Veut supprimer l'oppression.
Veut perpétuer l'oppression.
Défend le pauvre.
Anti-ouvrier.
Pense que la nature humaine est perfectible.
Croit que les choses sont ce qu'elles sont.
Porte en toutes circonstances ses blue jeans et son blouson.
S'habille pour aller au théâtre.
Mon père était de la droite classique. Il était ce qu'on appelait Action française. Il avait fait en tant qu'ancien combattant la manifestation en 1934, le 6 février, avec le régime déjà corrompu après l'affaire Stavisky.
Jean Cassou.
Corrompu. Et donc en 1936 arrive, après 1934, il y a Pierre Laval qui vient au gouvernement et qui fait une politique de déflation, chose invraisemblable. Mais mon père était fonctionnaire. Par conséquent, il a été touché par Pierre Laval, tandis qu'avec M. Blum, qui accorde des choses essentielles pour des hommes d'aujourd'hui, s'il accorde les 40 heures au lieu de 48, il accorde 15 jours de congés payés. Eh bien, il faut croire que mon père étant fonctionnaire, il ne travaillait que 40 heures, et quant au congé payé, il avait un mois. Donc, il a dû voir, à l'époque, une catégorie sociale dont les avantages sociaux augmentaient, mais n'augmentaient pas les siens, ni ne les diminuaient d'ailleurs. Comme c'était un homme loyal, il a certainement dû penser que c'était un acquis social convenable qui pouvait peut-être mettre en péril l'industrie, en raison des problèmes que ça posait aux industriels, l'augmentation, la diminution du travail et l'augmentation des congés payés. Mais néanmoins, il n'était pas outragé, si on peut s'exprimer ainsi, par ce qui est arrivé à cette époque. Dans le programme de M. Blum, il y avait eu la suppression des régions, qui c'était
les régents de la Banque de la Banque de France.
Les régents de la Banque de France. Il avait écorné en quelque sorte une face assez particulière et non indispensable à cette grande banque. Et là encore, c'était évidemment un geste social, mais c'était quand même fort peu de choses par rapport au coup de sabre qu'en 1945, le général de Gaulle donnera à cette Banque de France en la nationalisant de but en blanc.
Vous voulez dire que de Gaulle est franchement plus à gauche que Léon Blum ?
Eh bien, pratiquement. Si on considère les choses de date à date.
Oui, mais sinon, en récapitulant, parce que votre père est ancien combattant. Il est catholique, donc pratiquant. Il est Action française dans les années 20-30. Ça le prédispose indiscutablement à avoir des sympathies pour le régime de Vichy qui s'installe en 40.
Mon père avait de l'admiration pour le maréchal Pétain, pour le combat qu'il avait mené à Verdun et après. Ça, c'est bien certain. Mais mon père, tout en étant de droite, était excessivement modéré. Et il n'avait peut-être pas compris, lui, à son époque, qu'il fallait se méfier des militaires. Je pense au général de Gaulle. Et donc, il avait foi en ce que disait le maréchal, mais il ne s'est jamais laissé aller à faire des actes positifs contraires à ce qu'on pourrait appeler le bon entendement de la Troisième République. Il était pour, assuré, il était pour de cœur, mais il n'a fait aucun acte. Et d'ailleurs, pendant l'occupation, il n'a pratiquement pas eu d'avancement. Ce qui signifie bien qu'il n'a pas été le fourvoyeur d'une politique qu'il ne désapprouvait pas, peut-être dans son ensemble. Et évidemment, cette position m'a beaucoup influencé.
Bien sûr.
Parce que pendant cette occupation, eh bien, comment l'ai-je vécu ? Je l'ai vécu en adolescent. Je me rappellerai toujours l'arrivée des Allemands dans la ville où nous étions, en colonne serrée. C'était la défaite de la France. Et je pensais, bien sûr, à l'invasion de la Alsace en 1870. Nous allions subir le joug des Allemands. Bon. Eh bien, la politique n'est évidemment pas pour moi de tirer dans le dos d'un officier allemand, car on sait que dans cette matière-là, on est un héros, mais un héros lâche, je dis bien, parce qu'on fait tuer d'autres personnes à sa place. Bon.
Et est-ce que je peux me permettre là de vous demander si c'est votre point de vue sur la résistance que vous venez d'exprimer ?
Non, parce que ceux qui ont tué, ceux qui faisaient de la résistance, ont tué des officiers allemands. À mon avis, c'est pas ça la bonne résistance. La bonne résistance, c'est l'information, c'est la transmission des messages sur les positions des forteresses, des pièces de canon, le passage des évadés. Voilà la bonne résistance. Mais aller faire un coup en traître, en quelque sorte, dans le dos de quelqu'un qui n'est pas sur ses gardes, à vaincre son péril, on triomphe sans gloire. Vous a appris Corneille.
Instituteur de France, c'est un devoir pour moi, autant qu'un besoin, de penser sans cesse aux Français, puisque j'ai fait don de ma personne à la France. Mais parmi les Français, il n'en est point vers lesquels ma pensée revienne plus souvent, ni plus volontiers, que vers les instituteurs. Instituteur de France, c'est vous qui, dans la nation d'aujourd'hui, formez celle de demain. Vous êtes à la fois des éducateurs et des instructeurs. Vous prenez possession de l'enfant pour former en lui l'homme.
Faites-les grandir pour la santé et la grandeur de la France, ces petits Français que la patrie remet entre vos mains.
On sait combien le régime de Vichy va être, vindicatif à l'endroit de gens comme vous, qui êtes au fond l'incarnation de tout ce qui déteste. Hein. Vous êtes l'incarnation de la République, l'incarnation de la gauche, l'incarnation des espérances et des réalisations du Front populaire. Et comment cela se passe-t-il pour vous? Comment vous ressentez ce régime qui
régime, je l'ai détesté.
Qui est bien prêt de remettre les crucifix dans les classes?
Non, ce ne sont pas les crucifix, là je rectifie. Un jour, je vois arriver dans ma classe le facteur avec un colis et je lui demande, je savais ce que c'était, qu'est-ce que vous m'apportez là? C'est la photo du paréchal Pétain que vous êtes prié d'afficher dans vos classes.
François Colbert.
Je l'ai prise, je l'ai affichée, et dans la nuit, je l'ai subtilisée, et on n'a jamais revu. Je l'ai affichée parce que, sur le ton qu'il a employé, je me suis dit, voilà quelqu'un qui n'est pas de mon bord. Hein? Mais, aussi vite, je l'ai enlevée. Et jamais, elle n'a reparu. D'autre part, au point de vue résistance, pas participer à la résistance active, mais plutôt à une résistance, appelons, passive.
Ça prenait quelle forme, la résistance passive d'un instituteur dans l'école?
Je vais vous dire d'abord pourquoi pas à la résistance active. À côté de l'école, il y avait une maison habitée par un collaborateur notoire qui surveillait nuit et jour les faits et gestes de ses voisins. Il était appuyé par le syndic du village nommé par Vichy. Donc, moi, ayant deux enfants en bas âge, je me suis trouvé dans l'obligation de rester tranquille.
Droite-gauche. La pulsation de ces deux termes indissolublement liés par leur opposition rythme de son tempo toute l'histoire politique de la France contemporaine. L'obsédant martèlement de ces deux vocables jumeaux scande 150 années de lutte politique. La division traditionnelle de l'esprit public en deux grandes tendances contraires reste aujourd'hui la clé qui ouvre l'intelligence de notre histoire récente. Elle égare, cette histoire sombre, dans l'incohérence arbitraire d'un désordre fortuit. René Raymond.
So you want to write a fugue, you've got the urge to write a fugue, you've got the nerve to write a fugue, so go ahead.
Il est bien temps maintenant de noter un phénomène assez curieux. Le couple droite-gauche scande assurément notre vie politique depuis un siècle et demi, mais d'une façon assez singulière, puisque ce couple, sur la longue période, apparaît assez constamment bancal, comme s'il penchait plus volontiers d'un côté que de l'autre, c'est-à-dire du côté gauche. Et l'on a pu parler, pour désigner ce phénomène, de sinistrisation de la vie politique française. Comment expliquer alors, Marcel Gaucher, cette curiosité, ce fait que ça penche à gauche ?
D'abord, une anecdote, peut-être pour le rendre vivant. Tocqueville, siégeant à la Chambre sous la monarchie de Juillet, arrivant à la Chambre, se plaint que les journaux les classaient à droite. Et il a cette formule merveilleuse que je cite de mémoire. On ne se rappelle que des gens de gauche. Il faut donc que je me range à gauche. Dans cette équation politique, la droite et la gauche s'enlèvent sur un fond qui renvoie très concrètement au dilemme français du 19e jusqu'à l'établissement de la Troisième République, ancien régime ou révolution. Et bien évidemment, le parti de l'avenir, c'est le parti de la révolution, c'est la gauche. Mmh. Et dès la révolution de 1830, dès la monarchie de Juillet, on voit s'esquisser le phénomène où la gauche d'hier devient déjà le centre, bientôt la droite du nouveau régime. Donc l'histoire va dans le sens de la gauche. Mmh. Et par conséquent, le pôle moteur dans l'opposition, c'est évidemment à gauche qu'il se situe.
C'est vrai dans tous les registres, comme vous le notez, y compris le registre littéraire, Stendhal qui dit je suis centre-gauche, toute la France est centre-gauche.
Oui, c'est ça. Bien sûr, on ne peut pas être de droite en fait. Être de droite, c'est être du côté du passé, c'est être du côté de la conservation de quelque chose qui est mort. Il y a un avantage symbolique à la gauche.
Ben, ce qui est vrai, c'est qu'alors que le mot de droite est valorisé, effectivement, dans son acception quotidienne...
Guy Rossilandi.
La gauche, sinistre, sénestre, étant au contraire péjorative, en politique, il vaut mieux se présenter comme un homme de gauche parce qu'on apparaît comme un homme de progrès. Il semble qu'on ait l'avenir devant soi. Bon, c'est la citation de Joseph Barthélémy, qui se présentait comme un républicain de gauche et qui siégeait à droite du Sénat. Alors, ça s'est toujours vérifié. Il y a eu une espèce longtemps de pudeur qui empêchait les gens de droite de se considérer comme tels. Jean-Marie Le Pen a fait scandale en disant « je suis un homme de droite ». Mais on peut penser qu'il le disait pour se dédouaner du fait qu'il appartenait à l'extrême droite. Oui, il y a une espèce de glissement. Valéry Giscard d'Estaing, qui est le président encore de l'UDF... n'a jamais, à ma connaissance, osé se présenter comme un homme de droite. Et vous lui feriez certainement plaisir en reconnaissant que dans sa politique, il y avait des ouvertures.
Il se désigne comme un homme du centre, il dit la France doit être gouvernée au centre, et au fond, le centre apparaît comme une euphémisation de la droite.
C'est vrai.
D'ailleurs, il y a une formule célèbre d'Edgar Faure à qui on demandait où est le centre, il disait au fond du couloir à droite.
Oui, je ne connaissais pas la phrase d'Edgar Faure, mais c'est vrai, le centre, c'est la droite, c'est l'extrême droite, et l'extrême droite n'apparaît pas.
Homme de gauche, la fin de l'histoire.
Homme de droite, l'au-delà.
Les fonctionnaires.
Les notaires.
La volonté humaine.
La fatalité.
Le progrès.
L'atome.
L'amour.
La famille.
Les partis.
Les églises.
Picasso.
L'académie.
La dignité.
L'honneur.
C'était Lieu de mémoire, la gauche et la droite, premier volet, les sœurs ennemies. Une émission de Marc Riglet avec Jean Cassou, François Colobert, Marcel Gaucher, Guy Rossilandi, Alain Gérard Slama. Texte lu par Judith Magre et Jacques Bonafé. Archivina, Emmanuel Join. Mixage, Véronique Amiot, Josette Etier, réalisation, Marie-Christine Closet. La semaine prochaine, deuxième volet, la gauche et la droite, jeu brouillé. Thank you.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 22 février 1996.